Vous entrez dans les ateliers de la nuit. Avez-vous déjà eu des vers auditifs dans les oreilles, un air qui vous trotte dans la tête, qui s'est glissé l'air de rien et qui ne part plus? Une obsession, une hallucination auditive. Est-ce une production de votre esprit? Quel est le lien entre la musique et le cerveau? Qu'est-ce que le cerveau perçoit? Comment se forme l'émotion musicale? Nous autres, êtres humains, sommes une espèce musicale non moins que linguistique, dira le neurologue Oliver Sacks. L'expérience de la tonalité qui entre dans l'oreille, l'atelier du son l'interroge depuis longtemps. Mais une fois dans l'oreille, le son atteint le cerveau. Et alors que se passe-t-il? C'est précisément ça que Thomas Baumgartner interroge, le cerveau comme décodeur des ondes. On parle parfois de symphonie neuronale. La musique change notre cerveau. Le cerveau rayonne au contact de la mélodie, et les zones concernées sont multiples. Les nouvelles applications de la musique, dans la thérapie liée aux maladies neurologiques, sont pleines de promesses. L'atelier de ce soir envoie des sons, s'adresse à votre cerveau. Vous êtes une espèce musicale. Mais avant ça, il est question des cris de Paris et de sons disparus.
Commençons en parlant d'un article qui a un peu tourné ces derniers jours, signé Anne Donadini sur les inrecuptibles en ligne. Un article qui traite des sons qui disparaissent et dont on tente de garder la trace. Il y est notamment question de l'étonnante opération Work with Sounds qui collecte et met à disposition en ligne les sons du travail, les sons industriels, dans un but donc de conservation. Work with Sounds est un projet qui est mené par 6 musées européens, dont aucun français, mais il y a un musée belge, un slovène, un polonais, un suédois, un finlandais et un allemand qui travaillent donc là en collaboration, et c'est financé en partie par le programme Culture 2000 de l'Union Européenne. Si vous cherchez le son d'un téléphone des années 20 ou d'un métro des années 70 par exemple, rendez-vous donc sur workwithsounds.eu et vous y trouverez votre bonheur. Parmi les mots-clés les plus populaires, on en trouve pas mal liés au transport, et particulièrement au transport en commun, chemin de fer, engin à vapeur, tramway, ou comment donc être ensemble dans le même son. L'article des Un Rock fait la liste d'autres initiatives de ce type, comme le musée des sons en danger, imaginé par un Américain, un certain Brendan Chilcutt, ou le projet Radio O avec 5 O, qui propose une carte mondiale des sons et chansons enregistrés depuis 1900. La question du son qui disparaît est intéressante, d'abord parce qu'en général, un son disparaît sans faire de bruit. Au mieux, on s'en rend compte au bout d'un moment. Tiens, oui, c'est vrai qu'on n'entend plus le bruit du modem qui se connecte quand on va sur Internet. Ça faisait comment déjà? Mais le plus souvent, eh bien, ce son tombe dans l'oubli. La faute à quoi? La faute au monde qui tourne, d'une part, la faute aux outils qui nous entourent et changent, se numérisent le plus souvent. Ensuite, si elle est intéressante, cette question, c'est qu'elle en sous-entend une autre. Pourquoi vouloir sauvegarder ces sons qui disparaissent comme s'il s'agissait d'éléphants dont on voudrait protéger l'ivoire? Peut-être parce qu'ils sont nous. Ils sont nous hier, ils sont nos oreilles, ils ont forgé nos oreilles, ces sons, ils ont forgé l'oreille de nos parents, l'oreille même de nos grands-parents, et donc en partie les nôtres par ricochet et éducation. La raison de cette sauvegarde est généalogique et quasi organique. Loin d'une simple nostalgie, on cherche à réentendre ces sons détachés du présent parce qu'ils nous permettent d'apprécier ce présent et de l'entendre. Mais au fond, il n'y a rien de neuf, sinon la forme dans cette quête du son passé. D'autres ont fait ce travail il y a longtemps. Exemple, eh bien vous l'entendez, Clément Jeannequin, compositeur du XVIe siècle, dans sa pièce « Voulez ouïr les cris de Paris », il représentait en musique l'ambiance sonore de la ville à son époque, donnant ainsi du grain à moudre aux archéologues sonores à venir. Bonsoir à vous, bienvenue dans l'atelier du son.
Marron de Lyon, Marron de Lyon, Marron de Lyon, Marron de Lyon.
Demain commence une série de 3 conférences qui vont nous amener jusqu'en septembre. Des conférences qui traiteront du lien riche, multiple et en mouvement entre la musique et le cerveau. Notre cerveau et la musique que l'on entend ou que l'on pratique. La première de ces conférences aura lieu demain, samedi, à la Maison de la Radio. Tous les renseignements pratiques sont déjà sur le site de l'Atelier du Son, sur franceculture.fr. Profitons de l'occasion de du début de cette série de 3 conférences pour aborder donc cette question, prendre le temps de l'aborder dans l'émission. Comment la musique résonne dans le cerveau, à quel endroit, comment naît l'émotion musicale, comment le cerveau change sous l'effet de la musique. Voilà donc quelques-unes des questions qu'on va soulever avec nos invités. Hervé Platel, professeur de neuropsychologie et membre du laboratoire neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine à l'université de Caen. Et Yves Agide, professeur de neurologie et de biologie cellulaire, membre de l'Académie des sciences et fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Bonsoir Hervé Platel.
Bonsoir.
Bonsoir Yves Agide.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'être là, ainsi accueillis par Clément Jeannequin et les sons des marchés et des rues de Paris. On entend des navets, navets. Il y avait des navets apparemment dans les marchés à Paris au XVIe siècle. Oui, voilà, on est très heureux de vous recevoir pour aborder cette question dont évidemment on ne fera pas le quart de la moitié du tour pendant cette émission, mais on va tâcher de prendre le temps de se parler du lien entre le cerveau et la musique. Et voilà, il y a une question de départ. Que se passe-t-il dans le cerveau quand on entend de la musique, Hervé Platel ?
Il se passe beaucoup de choses dans le cerveau quand on entend de la musique. Et s'il y a eu, en fin de compte, un moment crucial par rapport à cette question, c'était le décours des années 90 avec l'émergence des techniques de neuroimagerie fonctionnelle qui permettent de voir, en fin de compte, le cerveau en fonctionnement chez un sujet tout à fait normal. Alors maintenant aussi chez des patients, évidemment. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu ? Eh bien, l'idée qu'on avait des liens entre cerveau et musique, c'était une idée héritée donc de la clinique, en disant, effectivement, on sait qu'il peut y avoir des dissociations. Il y a des patients qui, à la suite d'une lésion cérébrale, peuvent perdre leurs facultés liées au langage, mais pas au niveau de la musique, et inversement. Mais précisément, ce qui se passait dans le cerveau, on ne savait pas bien. Et beaucoup de gens disaient, la musique dans le cerveau, c'est l'hémisphère droit, c'est une région assez délimitée. On imaginait pendant longtemps trouver un centre cérébral de la musique. Et quand on a fait passer les premiers scanners, entre guillemets, à des gens qui écoutaient de la musique, on a été assez surpris de s'apercevoir déjà que l'ensemble du cerveau, quasiment, était en mouvement, était activé par la perception de la musique. Pas seulement les régions qui traitent du décodage sonore des informations, les régions auditives, mais aussi le cortex moteur, parce que quand vous entendez de la musique, si elle est un petit peu rythmée, évidemment, vous avez envie de taper des mains, taper du pied, etc. Il y a un lien direct entre la perception et l'action, ça on le sait depuis longtemps, et ça se retrouve dans la musique. Il y a effectivement une activité dans les régions cérébrales liées à l'attention, liée à la mémoire, et la mémoire et la musique c'est très important, je pense qu'on en reparlera, et bien sûr, la musique, support artistique, qui peut donner du sens à quelque chose en tant que support artistique, qui est un porteur d'émotion, donc les circuits cérébraux de l'émotion. Donc, quand on parle de symphonie neuronale, je pense que le mot l'expression est presque un peu galvaudée, mais c'est pas faux. C'est pas faux. En fait, la musique dans notre cerveau, c'est pas juste une région, c'est le cerveau.
Professeur Agide, est-ce que c'est une exception cette manière de parler du lien entre la musique et le cerveau, en disant il n'y a pas de centre musical dans le cerveau, ça se passe dans plein d'endroits différents. Est-ce que c'est vrai pour, par exemple, le rapport au langage ?
Oui et non. Quand M. Platel parle de l'ensemble du cerveau, il a raison, mais en même temps, c'est aussi assez localisé. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le cerveau, c'est comme une espèce d'immense ordinateur d'une complexité inimaginable qui bouge. Donc, ça n'a rien à voir avec un ordinateur, mais ce sont des circuits, c'est des routes. Il y a des autoroutes, Il y a des avenues, des rues, des ruelles. C'est très, très compliqué.
Il y a des déviations de temps en temps ?
Oui, parce que chaque voie envoie des collatérales. Mm-hmm. Ce qui explique d'ailleurs, comme vous le disiez très bien, que quand on écoute un son, en même temps, l'information se distribue dans plusieurs endroits. Mais en même temps, au milieu de ces routes, c'est un peu comme la ville de Paris, si vous voulez. Il y a des hubs.
Ouais.
C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tout est concentré. Donc, pour la musique, on peut en parler. Il y a quand même quelques hubs dans les régions du cerveau qui sont situées sous la tempe, à la partie supérieure, qui sont des centres d'intégration. Par exemple, puisque vous parliez du langage, le langage, on connaît beaucoup mieux que la musique. Les deux hubs, je préfère dire hub, on comprend ce que ça veut dire, c'est pas un centre comme le musée d'art moderne, hein, c'est pas du tout comme ça.
C'est un point nodal.
Une concentration, où il y a une concentration d'informations. À ce moment-là, il se trouve que pour la musique, ces centres sont localisés très près des centres acoustiques. Alors, comment ça se passe? Je ne sais pas si vous voulez qu'on en dise quelque chose.
Parlons de cartographie du cerveau, oui, ça c'est intéressant.
Non, parce qu'il faut comprendre que quand on reçoit un son, c'est des ondes sonores, c'est comme une sorte de vent qui arrive dans l'oreille, et là, dans l'oreille interne, ces ondes sonores vont, au miracle, se transformer en électricité, qui vont courir, cheminer sur des neurones. C'est quand même extraordinaire. Et ces sons vont donner, de manière tellement subtile, des changements de la fréquence, de l'amplitude, des petits courants électriques qui vont courir sur les neurones, que finalement, ces hubs vont à un moment, disons, coordonner, enregistrer, intégrer, synchroniser éventuellement, mais surtout intégrer un ensemble de courants électriques qui arrivent, encore, il faut le dire, de manière assez mystérieuse, même si on commence à décoder, et qui font que la musique qui était émise est reconstruite dans le cerveau. C'est quand même, c'est extraordinaire.
C'est du décodage en direct.
C'est du décodage en direct. Après, ce qui se passe, c'est exactement ce qu'a dit M. Platel. C'est-à-dire que vous avez une série invraisemblable d'informations, invraisemblables, en plus qui sont sélectionnées, parce que quand vous écoutez de la musique, il y a plein de choses qui se passent autour, et qui arrivent par des conduits différents, par des cheminements différents qui suivent les connexions nerveuses et qui vont arriver préférentiellement dans un centre. On pourrait le dire peut-être, je le dis comme ça de manière un peu imprudente, qui vont assurer la redistribution de l'ensemble. Par exemple, si vous écoutez un morceau de musique, Au clair de la lune, bon, tout de suite, vous le reconnaissez que ça veut dire. Ça veut dire qu'Au clair de la lune, vous l'avez dans un autre hub, si vous voulez, où vous avez la mémoire d'Au clair de la lune. Donc celui-là est informé. Vous l'avez aussi dit. En même temps, vous avez Au clair de la lune, si c'est moi qui le chante, ça va rester d'une platitude terrible. Si c'était les chanteurs qu'on a entendus tout à l'heure, ça donnerait une émotion grande, comme moi je l'ai eue en écoutant cette merveilleuse musique. Eh bien, à ce moment-là, on met en jeu tout un autre type de circuit, d'autres hubs, entre parenthèses, qui est celui de l'émotion, du plaisir que vous allez recevoir.
Voilà. On entend, oui, que quand on parle de ce sujet-là, cerveau et musique, c'est un propos en trois dimensions qu'on essaye de développer et qu'on va développer avec vous deux ce soir. Justement, le parallèle qui a été fait quelques fois là, depuis le début de cette émission avec le langage amène à une autre question. Ou alors c'était l'exemple aussi de Clair de la Lune. C'est-à-dire qu'il y a le stimulus musical, le stimulus sonore qui entre dans l'oreille, parvient au cerveau, mais aussi ce que veut dire Au clair de la Lune, ce que ça réveille, qui nous l'a appris, d'où il vient. Donc il y a peut-être, est-ce que c'est vraiment, c'est une question, j'ai l'impression, moi, la question du lien entre cerveau et musique qui mélange véritablement la question du brut et du culturel, de l'inné et de l'acquis, enfin que ces deux choses sont constamment en dialogue, professeur Platel.
Nous, la question que nous pose la musique, moi je travaille dans un laboratoire, vous avez rappelé très gentiment son nom complet, toujours les laboratoires des noms très très fastidieux, qui travaille sur la mémoire humaine normale et pathologique. Et la question de la musique par rapport à la mémoire, elle est extrêmement intéressante, parce que, comme l'a dit le professeur Agide, il y a un mystère effectivement de la représentation, de comment le cerveau se représente un souvenir. Qu'est-ce que c'est que le stockage d'un souvenir? C'est très compliqué, là aussi.
Si vous avez des idées, je suis preneur.
mais je pense que voilà, on essaye de se faire un modèle, des vérités qui n'en sont pas des vérités définitives. Je pense qu'on a effectivement des propositions. Alors, Par rapport à la musique et à la mémoire, le point très intéressant, c'est effectivement que les choses sont assez différentes du langage. Notamment parce que la musique ne représente pas un sens directement, les notes ne représentent pas de sens. Donc en fait, on a un aspect qui est construit, la mélodie d'Au clair de la lune, et ça c'est les premiers psychologues de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, se sont intéressés effectivement à cet aspect construit pour dire, en définitive, ce qu'on mémorise, c'est les relations entre les éléments et pas chaque élément indépendamment les uns des autres. Et ça c'est très important, notre cerveau, en fait, compte, c'est un spécialiste pour créer des associations entre les éléments et construire, en fin de compte, des représentations qui ne sont pas simplement des associations d'éléments simples.
C'est-à-dire que là, on se souvient de la mélodie, mais pas d'une note après l'autre. C'est ça que vous voulez
tout
dire,
à fait.
Par exemple.
La mélodie d'Au clair de la lune, elle a une identité. Elle a une identité et la preuve en est, c'est qu'en fin de compte, on la reconnaît même si elle est transposée. Si je la chante, moi, avec ma tessiture, vous allez la reconnaître. Et vous allez... Alors que ça ne passera pas forcément do, 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 ré, mi, ré, hein, ça c'est clair. Donc, vous allez la reconnaître. Ce sont les relations entre les éléments qui sont importantes.
Pour le langage, c'est pareil, entre parenthèses.
Il y a un aspect relationnel, et d'ailleurs, c'est ce qui expliquera, et qui est très intéressant du point de vue de la neuroimagerie, c'est qu'effectivement, entre langage et musique, on a quand même des réseaux communs, on a quand même une activité qui est commune, et en particulier, parmi les régions les plus communément activées pour le langage et musique, on a une région qui est très importante dans le cerveau et qui sert à beaucoup de choses, c'est l'aire de Broca. Et l'aire de Broca, dont on dit que pour la musique et pour le langage, ça va servir à, justement à traiter l'aspect segmentation, en fin de compte, de l'information, et notamment, certains disent, l'aspect syntaxique, voire grammatical de l'information, dans les deux cas, que ce soit pour le langage ou pour la musique. Donc ça, c'est intéressant à considérer, il y a quand même des processus communs. Mmh. Alors, je reviens à mémoire et musique, simplement sur un point, en quoi la musique nous interroge sur la mémoire. C'est que, en fait... On a des modèles de mémoire. Vous savez que la mémoire, on la découpe maintenant en 5 tranches ou en d'autres niveaux de tranches. Bon, bref. Et il y a un aspect de la mémoire et de la connaissance en mémoire qui a été peu exploré, c'est l'aspect perceptif. C'est-à-dire qu'on a souvent considéré que le traitement perceptif dans notre cerveau était un traitement qui ne laissait pas de traces forcément durables dans notre système nerveux et que on allait maintenir les associations entre les éléments, mais c'était pas forcément durable. Donc cette mémoire perceptive, on l'a un petit peu sous-estimée en disant c'est pas très important le traitement perceptif des informations parce que ça se maintient pas sous une forme durable. Mais quand on pense à musique, en fait, c'est une mémoire qui à la fois est non verbale mais possiblement verbale aussi. C'est-à-dire qu'on peut verbaliser la musique, mais elle peut être aussi non-verbale. Et la musique, en fin de compte, a ce statut particulier au niveau de la mémoire, c'est qu'on part de quelque chose d'assez basique, un peu comme la mémoire des odeurs, la mémoire des goûts, où on a très peu de vocabulaire qui peut être associé à ça, et alors, sauf si on devient un spécialiste de ces aspects. Ouais. Et puis, quelque chose de très construit, lexicalisé avec le langage, et les musiciens sont un exemple, effectivement, de personnes qui ont appris à verbaliser la musique. Et donc, entre ces deux dimensions, eh ben, il peut y avoir, effectivement, des hiérarchies très, très différentes.
c'est un morceau du duo électro Matmos, duo américain, qui avait sorti un album en 2013 intitulé The Marriage of True Minds. Et là, le morceau s'appelle Rose Transcript. Et c'était un album fabriqué autour de la notion de télépathie, on ne va pas dire par télépathie, mais autour de la notion de télépathie, en lien avec des cobayes, des patients, enfin des gens qui venaient projeter des images mentales auprès du duo qui ensuite en faisait une musique, en a fait une musique électronique. Donc pour vous répondre, professeur Platel, oui, c'est normal ce qu'on vient d'entendre. Et effectivement, là, on est... alors, je ne sais pas si c'est ça que veut faire Matmos, on a l'impression d'une plongée dans un cerveau sonore, avec une série de... Alors là, pour le coup, d'images sonores.
Ouais, je pense que ce qui se passe dans notre cerveau est passionnant quand on entend cela, parce que en fait, le cerveau cherche toujours à donner du sens, à trouver en fin de compte des éléments de connaissance et à trier les informations. Et là, ça se fait à des vitesses incroyables. Mmh. Et c'est une complexité absolue. Et en même temps, eh bien, ce tri se réalise. Et ça, cette efficacité du cerveau à être capable en fin de compte d'aller chercher des éléments même. Des fois, c'est à peine une seconde d'information et de capter immédiatement ce à quoi ça pourrait faire référence de manière probabilistique, hein, de manière probabiliste dans notre cerveau.
Professeur Agile, vous disiez tout à l'heure que le cerveau n'était pas un ordinateur, mais que c'était plutôt, on va dire, une machine en mouvement, une machine plastique. Est-ce que la musique, est-ce que l'expérience musicale change notre cerveau ?
Bien sûr. C'est l'environnement, surtout dans la petite enfance, puisque le poids d'un cerveau à la naissance, c'est 25% de son poids à l'âge adulte, vous imaginez. Donc pendant une quinzaine d'années, disons 15 à 18 ans, le cerveau de l'homme augmente en volume et augmente en connexion nerveuse, avec un nombre de connexions nerveuses tellement énorme. Ce que je dis souvent, c'est que le cerveau, c'est en petit ce que l'univers est en grand. Mmh. Songez que dans un millimètre cube de tissu, vous avez un demi-milliard de connexions nerveuses. Un millimètre cube, c'est extraordinaire. Donc, comment ça se passe là-dedans ? Alors, en effet, le cerveau est câblé, ses routes, mais elles bougent. Et vous pouvez avoir, quand vous avez des apprentissages, on le sait très bien, c'est décrit depuis très très longtemps, des nouvelles connexions qui se créent. On peut même dire qu'en pathologie, quand vous avez une lésion, si elle n'est pas trop importante, qui est telle que les neurones disparus disparaissent, mais que d'autres neurones viennent prendre la place de ceux qui ont été détruits jusqu'à un certain point, bien entendu. Ce qui permet, par exemple, à un malade de récupérer partiellement ou totalement sa fonction détruite après, par exemple, un accident vasculaire cérébral. Mmh. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que vous disiez à propos de cette musique très, très étonnante qu'on a entendue. C'est le problème du bruit et du son et de la musique. J'aime beaucoup, j'ai peut-être une idée un peu personnelle là-dessus, sur les rapports entre le langage, j'aimerais avoir votre avis d'ailleurs à ce sujet, et la musique. Pour moi, c'est assez parallèle. D'abord, dans le cerveau, c'est parallèle. C'est des circuits qui sont parallèles. Ils sont l'un à côté de l'autre. La perception, comme je l'ai dit, arrive dans le milieu du cerveau. Mmh. Elle arrive ensuite dans ce hub pour le langage d'un côté, pour la musique de l'autre, dans des endroits qui sont très très proches et probablement très très fortement interconnectés, entre parenthèses, si vous me permettez. Après. Quand vous entendez une musique, disons, symphonique, c'est bien, c'est une chose. Mais s'il y a du chant à l'opéra, c'est à la fois de la musique et c'est aussi des paroles. C'est des paroles en musique, mais c'est des paroles. Donc on peut bien comprendre que ces choses sont liées. Alors, comme vous l'avez dit, le langage donne un sens. Mais qu'est-ce que c'est un sens ? C'est quelque chose... on veut dire quelque chose. Par exemple, je veux vous dire quelque chose, mais vous, vous allez me répondre, parce que vous connaissez, vous savez le sens que je dis à cause des mots que je vais dire. Mais quand on entend de la musique, c'est un tout petit peu pareil. Vous avez une représentation mentale musicale, comme on a une représentation mentale de ce qu'on veut dire, mais c'est quand même la même chose. La seule chose, c'est que ça ne se dit pas. Mais au fond, si vous pensez sans dire, si je me mets à penser, voilà, je pense, je ne fais rien d'autre. J'ai une représentation mentale qui va me faire tourner des idées dans la tête, mais je peux aussi jouer de la même manière avec la musique. Donc, je reviens à ce que je disais sur cette analogie entre les deux. Et quand vous avez un mot, au fond, il est fait de quoi ? C'est des lettres qui vont former des syllabes, qui vont former des mots, puis des phrases qui ont un sens, puis éventuellement une belle poésie. Quand vous avez de la musique, vous avez des notes, sauf les grands professionnels, arrivent à déchiffrer, évidemment, instantanément, quand ils entendent une musique, vous avez même retrouvé au clair de la lune, cher ami, donc je vous félicite. Ensuite, vous avez un phrasé musical. Ces notes s'organisent entre elles pour faire un phrasé musical et puis donner une mélodie. Et donc, je trouve qu'il y a quand même un très, très grand parallèle entre les deux.
Moi, je voulais revenir sur la question de comment ça transforme notre cerveau. Il y a la pratique de la musique, il y a l'écoute de la musique, il y a la pratique de la musique. Quand ça se fait, en particulier, comme vous le disiez, au moment de l'enfance et de l'adolescence, au moment du développement du cerveau, il semblerait que ça développe des capacités totalement autres, qui ne sont pas musicales, mais par exemple des capacités sociales plus grandes, de vivre ensemble, d'écoute.
Oui, alors, professeur Platel. En fait, il y a beaucoup de travaux, effectivement, sur l'impact possible de la pratique musicale. On peut dire que apprendre la musique, c'est une activité très complète. C'est une sorte de sport intellectuel, mais c'est une vraie activité physique aussi. La maîtrise d'un instrument extérieur, même si c'est du chant, c'est quand même une activité qui implique le corps. Donc, depuis longtemps, et bien avant la neuroimagerie, on s'est intéressé aux conséquences de ce type d'apprentissage chez l'enfant. Il y a quand même un consensus pour dire que l'apprentissage musical permet en fin de compte de stimuler un certain nombre de compétences intellectuelles et qui vont au-delà en fin de compte du champ propre à l'apprentissage musical. Autrement dit, on parle de transfert étroit ou transfert lointain d'un point de vue de la pratique. Le transfert étroit, c'est de dire, évidemment, l'apprentissage de la musique, c'est décoder une information sonore. Donc, ça va stimuler les régions perceptives et on va devenir plus à même de décoder des informations fines d'un point de vue perceptif. Ça, c'est vrai, c'est une conséquence. On sait que les gens qui ont pratiqué la musique, qui ont fait des études de musique, sont plus à même de faire des différences dans la perception de sons d'une langue étrangère et d'apprendre mieux après une deuxième langue étrangère. Et même si vous avez fait des études musicales et que vous avez arrêté la musique à l'âge adulte, eh bien, vous garder ce bénéfice. Les musiciens encore plus, ceux qui continuent. Et si vous n'avez pas du tout fait d'études de musique, effectivement, votre niveau de performance est la même. La réaction, la finesse de réponse de votre cerveau sera moindre. Donc ça, c'est un transfert immédiat. L'aspect perceptif, l'aspect moteur, il y a un transfert immédiat. Et puis, on n'avait pas imaginé qu'il puisse y avoir des transferts plus lointains sur d'autres fonctions cognitives qui, a priori, n'étaient pas directement reliées à la pratique musicale. Les fonctions liées à l'attention, la concentration, les fonctions liées à la mémoire, et en particulier la mémoire immédiate, la mémoire de travail. On sait que les enfants qui apprennent la musique, effectivement, généralement, augmentent assez rapidement au cours des premiers mois de leur apprentissage, et en particulier du solfège, la mémoire viso-spatiale et la mémoire de travail aussi auditive, qui sont capables de maintenir plus d'éléments. Donc, clairement, effectivement, il y a des transferts sur cette pratique. Est-ce que tous ces transferts, ces effets qu'on observe, sont propres uniquement à la pratique musicale ? C'est la vraie question, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas obtenir et voir la même chose avec certaines pratiques sportives, etc. Et je pense que c'est tout à fait possible, sauf qu'effectivement, on observe quelque chose de très franc dans certaines études avec la musique, parce que la musique est une espèce de sport complet, intellectuel et physique, et je pense que c'est ça, la spécificité de la musique, c'est pas que la musique est spécifique en soi, c'est que certainement, elle fait fonctionner plein de niveaux différents du fonctionnement cognitif.
Il y a la question de la régularité, il y a la question de la discipline aussi, qui se joignent à ça. J'ai vu aussi que dans cette série, comment la musique peut transformer notre cerveau, l'écoute quotidienne de la musique pour quelqu'un qui a par exemple eu un accident vasculaire cérébral peut lui permettre de récupérer mieux ou plus rapidement la mémoire verbale.
Oui, c'est un aspect qui est un peu étonnant et en fait ça a été montré aussi dans d'autres contextes pathologiques que bizarrement la simple écoute de la musique, je dis bien la simple écoute de la musique comparée à la simple écoute d'une histoire, eh bien la simple écoute de la musique a un impact plus fort dans la récupération de la mémoire verbale, je dis bien la mémoire verbale, par rapport à l'écoute d'histoire. Et ça c'est un peu surprenant parce qu'on se dit l'écoute d'histoire devrait améliorer la mémoire verbale. Ben non, c'est la stimulation musicale qui améliore la mémoire verbale. Et ça, je pense que c'est un aspect très intéressant des techniques de réhabilitation qu'on peut proposer.
Est-ce que c'est spécifique? Professeur Agide. C'est ça le problème. Est-ce que c'est spécifique? Comme vous le disiez, si vous écoutez de la musique, si vous donnez un plaisir à quelqu'un qui n'en a plus beaucoup, quand vous avez une séquelle d'accident vasculaire cérébral comme une hémiplégie, par exemple, à ce moment-là, la musique donnant du plaisir, disons, facilite l'attention, la vigilance, permet de rester éveillé, ce que j'appelle, moi, les éclaireurs, qui sont autant de conditions qui sont favorables à l'apprentissage, donc à la mémoire. Mais il y a un autre aspect aussi dans la réhabilitation, comme vous dites, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un a une aphasie, il a des difficultés d'élocution, il ne trouve pas ses mots, et donc... Vous lui demandez, par exemple, de dire ce qu'est cette bouteille-là devant moi, et il ne peut pas le dire. À ce moment-là, vous utilisez le mot bouteille dans une chanson, et vous lui faites chanter. Par exemple, vous lui faites, reprenons l'exemple d'Au clair de la lune. Vous voulez qu'il dise lune ou au clair. À ce moment-là, vous dites au clair de la lune, incapable de le faire, ou de le décoder en le lisant. En revanche, si vous lui donnez l'air... Ta la 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 la. À ce moment-là, si vous et ça aide. Et donc, c'est une condition de rééducation qui est très classique chez les personnes qui sont responsables de cette activité.
Vous écoutez l'Atelier du son sur France Culture. Ce soir, on parle cerveau et musique en compagnie du professeur Hervé Platel, professeur de neuropsychologie, membre du laboratoire neuropsychologie de la mémoire à l'Université de Caen, et le professeur Agide, professeur de neurologie et fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière.
Thank you.
concerto numéro 3 de Rachmaninov en ré mineur opus 30 pour piano et orchestre, vous écoutez France Culture. Et si on diffuse un extrait de ce concerto de Rachmaninov dans cette émission consacrée au lien entre le cerveau et la musique, c'est que ça a été ce concerto la base de certaines expériences pour mesurer l'émotion en fait que la musique provoque dans le corps de celui ou celle qui écoute, en passant par le cerveau, vraisemblablement, professeur Agine.
Ah ben oui, tout passe par le cerveau. Je rappelle que le cerveau, c'est le chef d'orchestre, c'est le patron de l'organisme et de lui-même.
Ah, il paraît aussi que l'intestin est l'autre cerveau, ce qu'on dit ces derniers temps beaucoup.
Oui, il y a une différence, c'est que le cerveau produit de la pensée, tandis que l'intestin produit autre chose. Mais à part ça,
c'est la plupart des gens, vous voulez dire.
Ça veut dire que c'est un peu énervé, en effet. Mais enfin, voilà. Ça, c'est pas beaucoup d'impact. Non, en effet, si la question de l'émotion est très importante, c'est-à-dire que lorsque vous avez une phrase musicale qui vous arrive, évidemment, elle est intégrée, elle a une représentation qui vous est propre. Et elle peut donner éventuellement une émotion, pas toujours, il y a des gens qui n'ont pas du tout d'émotion. Mmh. Elle peut donner, dans des rares cas, une émotion négative, des gens qui n'aiment pas du tout. Bah, d'ailleurs, peut-être certaines musiques tout à fait contemporaines ou de personnes qui sont très classiques, ça peut être gênant. Et puis généralement, bien sûr, tout le monde, quand même, tout le monde dans le monde, quelle que soit la race, quel que soit le pays, écoute de la musique d'une manière générale avec plaisir. Alors il se trouve qu'à côté des circuits perceptifs qu'on a dit, à côté des centres qui intègrent ces belles musiques, il y a des circuits de cellules nerveuses qui conduisent les émotions. Autrement dit, quand vous écoutez quelques notes de musique, les informations sont ensuite distribuées, on l'a dit, vers les centres de mémoire, vers les structures qui gèrent la mémoire, il n'y en a pas qu'une, bien entendu, et aussi vers ces centres de l'émotion. Ces centres de l'émotion sont étalés le long du cerveau depuis les régions les plus anciennes et les plus primitives, qui sont chez tous les animaux, jusque dans les régions les plus récentes qui sont propres à l'homme. C'est en particulier la grande partie, un tiers du cerveau de l'homme, qui est situé derrière le front, qu'on va appeler le cerveau frontal, si vous voulez. Et dans ces régions qui intègrent l'ensemble des informations d'émotion, vous avez des degrés différents. Il est probable que les régions les plus anciennes donnent des émotions très primitives, très simples, peut-être en écoutant une musique complètement archi-simple, très rythmée, par exemple, des rythmes africains, de tambour, répété. Et puis, quand on entend la musique de Rachmaninov il y a un instant, il faut déjà avoir un certain degré d'éducation. Il paraît évident qu'il faut avoir une certaine formation pour apprécier à fond cette musique-là. Et à ce moment-là, c'est probablement intégré dans des circuits de l'émotion qui sont beaucoup plus récents dans l'évolution du cerveau de l'homme.
Mais est-ce qu'il n'y a pas, professeur Platel, des réactions quand on ne connaît pas cette musique, qu'on n'a pas forcément appris à la connaître, mais voilà, l'exemple de l'appréciation de la musique sans l'avoir appris, c'est le bébé petit, à peine debout sur ses deux jambes, qui cherche à danser en écoutant une musique, c'est peut-être plus rythmée.
Et c'est là que c'est intéressant. Donc, pour continuer sur la même ligne, effectivement, le plaisir musical, on l'a envisagé assez longtemps comme quelque chose d'intégré, d'unique. Et en définitive, aujourd'hui, on l'imagine bien avec différentes strates, différents niveaux, effectivement, du plaisir primaire, de l'aspect brut, donc de la vibration musicale qui peut toucher les viscères, jusqu'à des aspects très, très esthétiques, très complexes qui viennent de représentations culturelles. Mais l'aspect mnésique, il est très important. Je vais donner juste un exemple. L'aspect mnésique et l'aspect représentation et les attentes que l'on construit, même sur des morceaux qu'on ne connaît pas forcément. Il y a des cas cliniques très étonnants de perte de plaisir musical. Et un exemple que je cite souvent, parce qu'il est tout à fait prototypique de la manière dont le plaisir musical peut s'exprimer. Un jeune homme d'une vingtaine d'années a un accident de la route. Et, donc il a un trauma crânien et donc il a une lésion dans l'hémisphère droit au niveau des régions temporaux, pariétales droites. On le teste après récupération, il n'a aucun problème perceptif au niveau de la musique, il entend très bien la hauteur des sons, le rythme, etc. Il n'a pas de difficultés particulières. Et malgré tout cela, il se plaint, il dit « je n'écoute plus la musique que j'écoutais parce que je n'ai plus de plaisir à l'écouter ». C'était un jeune musicien de jazz, il était autodidacte, il aimait beaucoup en fin de compte le jazz, il était déjà à un haut niveau, jouant dans un orchestre, écoutant beaucoup de musique de ce type. Et là, ce qui est intéressant, c'est que dans cette courte observation, évidemment, les cliniciens lui disent « Mais expliquez-nous pourquoi vous n'aimez plus la musique ?» Et là, il exprime les choses en tant que patient. C'est intéressant d'écouter ce que disent les patients. Il dit « Bah voilà, maintenant, quand j'écoute le jazz, entre l'accompagnement et ce que fait le soliste, pour moi, ça n'a plus de sens. C'est-à-dire, je ne fais plus le lien. Le soliste fait des trucs, mais je ne vois plus le lien avec l'accompagnement. » Et pourtant, il n'a pas de trouble perceptif. Ouais. Donc là, il a perdu quelque chose qui est très subtil.
Il avait perdu le rythme.
Pas du tout. Non. Donc il a perdu quelque chose d'assez subtil. Et on voit bien, en fin de compte, que c'est...
Qui est une forme de sens de l'harmonie.
Voilà, une relation harmonique, en fait, entre l'accompagnement et le soliste. Et chez beaucoup de personnes, chez lesquelles on étudie la formation du frisson musical, en fait, ce qu'ils nous disent, c'est oui, à partir du moment où je peux envisager comment ça pourrait continuer, même si je ne connais pas bien la musique, ça devient intéressant. Et si ça continuait comme ça ? Et si ça continue comme ça ? Et là, on prend du plaisir. Ou on peut être surpris et on peut prendre du plaisir aussi. Mmh. Donc, le plaisir musical, il peut être d'un plein de niveaux différents, mais c'est quelque chose qui s'éduque. Mmh. Et c'est quelque chose, dans la plupart des cas, effectivement, qui nécessite des expositions préalables.
Mais est-ce que c'est ce que vous venez de décrire est une forme de ce qu'on appelle l'amusie, le fait de perdre une forme d'appréciation de la musique ?
La musique, c'est encore plus profond que ça. C'est-à-dire, non seulement je n'apprécie pas la musique, parce que je ne la comprends pas, je ne la décode pas comme il faut. Donc, à un niveau très primaire, c'est-à-dire la perception de la hauteur fondamentale, voire même au niveau du rythme. Donc, évidemment, pourquoi ce décodage ne s'est pas mis en place ? Ça reste encore un petit peu mystérieux. Et ça sera d'ailleurs l'occasion d'une des conférences de la première journée.
On l'a dit, cette émission ce soir permet d'évoquer les trois conférences qui vont avoir lieu. Donc, la première demain à la Maison de la Radio, les autres en juin et en septembre autour de ces questions multiples, on l'a compris, cerveau et musique. Il paraît que Nabokov, Ivagil, ne supportait pas la musique. Il était à musique sans accident. Quoi. On peut l'être, en naissant, on peut ne pas être sensible à la musique.
Je ne sais pas, Nabokov. L'exemple classique, c'est le Che Guevara, qui paraît qu'il ne faisait pas la différence entre un tango et une salsa. Évidemment, c'est assez bizarre.
Là, c'est succinct, mais ça va monter en volume. C'est une performance de 2009 à Berlin qui reprend l'idée de l'artiste Alvin Lucier, l'artiste américain Alvin Lucier. Et donc, il y a quelqu'un assis sur une chaise qui ferme régulièrement les yeux. Et cette personne a des électrodes sur le cerveau. Et au bout de ces électrodes, après tout un circuit, il y a différentes percussions. Et donc, les ondes alpha du cerveau du performeur, de la performeuse en l'occurrence, commande ses percussions et on a donc un morceau en train de se faire directement branché sur le cerveau. Alvin Lucier, donc artiste américain qui a inventé cette Music for Solo Performer en 1965, sera, on l'espère très fort, dans l'atelier du son très prochainement. Professeur Platel, il y a tout un pan de votre travail au laboratoire de neuropsychologie de la mémoire qui porte autour des malades d'Alzheimer, dont on a peu parlé ce soir, mais qui est un champ faramineux quand on met en relation comme ça sur la question du lien entre cerveau et musique.
Alors toujours, effectivement, en lien avec la mémoire, La représentation que l'on a eue pendant longtemps des patients Alzheimer sont des patients sans mémoire, des patients amnésiques. La maladie d'Alzheimer est considérée comme une maladie avant tout de la mémoire. C'est pas que la maladie de la mémoire, évidemment. Donc, avec l'évolution. Mais l'idée qu'on se faisait de ces patients, c'est que il n'y avait plus d'encodage d'informations nouvelles possibles. Donc, du coup, la prise en charge de ces patients en institution restait une prise en charge occupationnelle, pour lesquelles on se disait, de toute façon, ça ne sert à rien de s'énerver, ils ne vont pas mémoriser les choses, donc on les occupe, c'est déjà très bien. Et en définitive, la musique nous a permis de révéler qu'on s'était certainement trompé de ce point de vue-là, que le cerveau est quand même incroyable, c'est qu'il continue en fin de compte à se défendre, et notamment il y a des capacités d'encodage qui restent effectives, notamment on a montré grâce à des ateliers d'apprentissage de chansons nouvelles l'effet de répétition dans le domaine musical a cette vertu qui est que les patients arrivent malgré tout à mémoriser, malgré leur amnésie, les nouvelles mélodies qu'on leur propose à force donc de l'effet d'exposition et de répétition. À tel point que 4 mois après avoir étudié une chanson, on leur représente le texte donc de la chanson sous les yeux. Ils ne l'ont pas entendu pendant 4 mois. On leur dit « Mais est-ce que vous connaissez ce texte ?»« Ah oui, c'est une chanson, mais... » Est-ce que vous connaissez cette chanson ? Oui, c'est une vieille chanson, c'est une chanson que j'ai dû apprendre quand j'étais jeune, etc. Donc ce qu'ils disent correspond bien à la nature de leur trouble de mémoire. On dit, mais est-ce que vous seriez capable de la chanter ? Est-ce que vous seriez capable de chanter les... Et là, de manière tout à fait étonnante, on a eu quelques cas de patients qui ont été spontanément capables de chanter la mélodie, ce qu'on pensait complètement impossible. Donc là, la musique a été la démonstration de quelque chose, d'un changement en fin de compte de regard aussi chez ces patients, et de se dire en définitive, essayons de voir s'il y a des conditions autres que la condition musicale qui permettent de révéler que certains types d'encodage d'informations, c'est-à-dire ils vivent une situation et contrairement à ce qu'on pense, leur cerveau, en fin de compte, n'est pas une coquille vide, c'est-à-dire leur cerveau va quand même maintenir cette expérience vécue, mais le problème c'est qu'eux, ils ne peuvent pas en rendre compte. Oui. Mais ils ont bien vécu cette expérience, le cerveau l'a conservée d'une certaine manière, sans doute de manière dégradée à cause de la maladie. Mais si elle est répétée, cette expérience, elle est encore accessible. Elle est accessible un certain temps. Je pense qu'elle est, nos expériences démontrent qu'elle est accessible très longtemps, notamment du point de vue de la musique. On a fait des expériences avec aussi des supports donc picturaux, donc des peintures. On montre que c'est possible aussi avec des supports visuels.
Et ça change quoi ? Ça change un regard sur le malade, sur la maladie, sur la prise en charge ?
C'est-à-dire que là, les cliniciens déjà ont une autre perspective sur le patient. C'est-à-dire qu'on se dit, on est plus simplement dans l'occupationnel. On va pouvoir construire un vrai projet de soins où on va pouvoir amener le patient d'un état A à un état B, mais on sait bien que la maladie va progresser, qu'on ne va pas empêcher cette progression, mais malgré tout, on va pouvoir construire une relation et quelque chose avec le patient sans que lui-même soit conscient de la construction de cette relation. C'est ça qui est important. Mmh. C'est qu'en définitive, les cliniciens nous le disaient bien, mais oui, mais c'est bizarre quand même, au bout d'un moment. Ils finissent par être familiers avec notre visage. Ils ne vont jamais retenir notre nom, mais ils deviennent familiers avec notre visage. Et ça, c'est une manière aussi de confirmer cette impression clinique, de dire, mais en définitive, oui, les patients, ils finissent par se familiariser avec un certain nombre de situations.
Est-ce que ça change, par exemple, des dimensions comme l'humeur du patient ?
Évidemment, ce qu'on cherche toujours, c'est à démontrer qu'on peut aussi avoir un impact sur les troubles du comportement et aider à une résistance face à la maladie. Je pense que là, il faut être modeste dans nos conclusions en disant qu'on peut potentiellement aider, mais qu'on n'a pas les moyens de prouver qu'on a vraiment permis, en fin de compte, à la maladie d'aller moins rapidement. C'est très difficile à le démontrer.
Professeur Platel, juste avant de terminer cette discussion, à titre personnel, à titre social, la musique, quand elle est là, on se rend compte avec vos travaux et avec les discussions qu'on a eues avec tous les deux ce soir, est fondamentale. C'est quoi l'étape suivante ? Est-ce que vous arrivez, vous, à avoir l'oreille de, je sais pas, sur la question de comment mettre la musique dans la société, comment l'apprendre, comment l'éducation musicale, ces choses-là ? Vous, scientifiques, vous deux, là, ici, scientifiques, ce soir, vous avez des arguments à porter sur cette question-là ?
Je pense qu'on a effectivement les neurosciences, quand elles ne sont pas réductrices. Et je pense qu'on fait l'effort, on essaye de faire l'effort, effectivement, de prendre du recul et d'éviter les réductionnismes dans la mesure du possible. Mais quand on fait cet effort, on apporte un certain nombre d'éléments d'objectivation pour dire oui, il y a un rôle évident de l'art et de la culture dans la construction de l'individu. La musique, donc, et toute forme d'art contribue effectivement à cette construction et elle peut contribuer aussi à son éducation, éducation intellectuelle, mais éducation sociale.
Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces liens entre cerveau et musique. Professeur Platel, professeur de neuropsychologie, membre du laboratoire, je vais le redire en entier, neuropsychologie cognitive et neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine à l'Université de Caen. Et professeur Yves Agide, professeur de neurologie et de biologie cellulaire, membre de l'Académie des sciences et fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et on l'a dit donc, demain commence une série de trois conférences qui vont durer jusqu'au mois de septembre. Première demain, deuxième au mois de juin, troisième au mois de septembre, à la Maison de la Radio, autour de ces questions de lien entre cerveau et musique. Trois conférences ne seront pas trop. Cette émission a permis de se mettre peut-être le pied à l'étrier. Merci encore à vous.
Merci.
À nouveau une histoire de son, une histoire vraie, vécue, dont un son est le centre, c'est Emma Rill, multi-auteur, multi-support, romancière quantique qui nous offre son histoire de son ce soir. Il était une fois.
Il était une fois un éclat de rire. Cet éclat de rire, j'ai essayé de l'attraper, de le définir, de le décrire, et c'est dans une chanson de Tom Waits que j'ai trouvé la meilleure rime, une chanson qui disait « I hear your champagne loaf ». C'est un éclat de rire effervescent. Cet éclat de rire a soulevé pour moi des montagnes, sans le faire exprès et sans que je le demande. Lorsqu'il a surgi dans ma vie, je ne m'amusais pas beaucoup et de pas grand-chose. C'est presque étonnant que je l'ai entendu. Il surgit de temps en temps encore et la journée est plus légère. Il m'a suffi de quelques fois à peine à m'en sentir effleuré. Ça m'a encouragé à changer deux, trois choses, à écrire. Très vite, je suis parti en Italie, ce qui n'était pas prévu. Et le premier matin, sur l'île d'Ischia, j'ai pris en photo l'horizon bleu et rose, une aurore de carte postale ou de lune de miel, mais j'étais seule. En Italie, dans le fond, je n'avais pas vraiment l'impression d'être seule, et pourtant je n'envoyais aucun message, mail ou SMS. C'est le plus grand privilège que je concède à l'idée d'être écrivain, c'est que j'ai le droit de me sentir accompagnée partout, j'ai le droit d'imaginer que je suis accompagnée, d'écrire pour la personne qui m'accompagne à ce moment-là, qui le plus souvent n'en saura rien ou peu, et je gagne parfois le privilège d'être lue par d'autres qui ne sauront pas pour qui j'écris. Pour revenir à cet éclat de rire, il a fait un bout de chemin avec moi, une autre fois jusqu'à Bruxelles, sur une blague, et bientôt, pourquoi pas, jusqu'à Stockholm ou Buenos Aires, ou d'autres endroits plus près. C'est un peu ma manière de voyager, sur un mot, un son, un malentendu, un jeu. Mon rêve serait de retourner à Palmyre, Palmyre qui maintenant est devenue inaccessible, et de prendre une photo depuis la terrasse de l'hôtel Zenobi, qui sans doute n'existe plus. Simplement, parce que nous en avions parlé une fois, c'est toujours comme ça que je fais. C'est le cœur de ma pratique littéraire de créer une présence à des personnes qui ne peuvent pas exister ou ne pourraient pas exister plus que ça près de moi. Il me faut un signal. Ce rire que j'aime tant a été un de ces signaux. Pour plein de raisons, je ne pourrais pas être présente auprès de cette personne au sens traditionnel ou avec des projets et je n'attends pas qu'elle le soit. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis très longtemps, j'ai toujours écrit comme ça depuis très longtemps. Et ce n'est qu'avec l'écriture que ça a un sens. C'est souvent une écriture partagée où se mêlent les fictions et les correspondances. Cette pratique, cette forme d'attachement ne m'empêche pas de travailler dans des mondes où la rêverie prend très peu de place et très aux prises avec le réel. Et trouver la place où le réel et la littérature s'accordaient, c'était aussi l'effet d'un éclat de rire que j'allais chercher, parfois provoquer, et ce n'était pas une autofiction. Il fallait savoir répondre sans expliquer pourquoi ni à quoi, juste pour le charme. Alors j'ai cherché dans les livres, j'ai eu un peu de mal à trouver exactement à quoi me faisait penser ce son, cet éclat-là, ou pourquoi je le cherchais, et j'ai trouvé cette phrase de Pascal, le philosophe qui écrivait « On voudrait prendre langue, mais comme on ne peut pas se servir de la parole, l'on en est réduit à l'éloquence d'action. » Et alors l'éloquence d'action, des fois c'est des tout petits gestes silencieux, c'est de l'écriture, et de l'écriture qui ne décrit pas ce qui est en train de se jouer. Au dernier jour en Italie, j'ai fait un mail avec la vue sur la mer, et je n'ai rien écrit, ou presque, pour accompagner la photo. J'ai juste su qu'elle avait été reçue. Nous sommes devenus amis, chaque ami que j'invente, c'est un peu comme un roman que j'ai réussi à écrire, et c'est aussi quelqu'un qui pourra compter longtemps sur moi.
Last night. Et voilà, c'était l'histoire vraie de Son, de l'écrivain, écrivaine, comment on dit, Emma Reel, et bien sûr Tom Waits, Watch Her Disappear, pour terminer. Watched you undress, wearing a sunset of purple tightly woven around your hair that rose in strangled ebony curls, moving in a yellow bedroom light. The air is wet with sound, the faraway yelping of a wounded dog, and the ground is drinking a slow faucet leak. Your house is so soft and fading as it soaks the black summer heat. A light goes on and a door opens, and a yellow cat runs out on the stream of hall light and into the yard. A wooden cherry scent is faintly breathing the air. I hear
C'est la fin. C'est la fin de l'Atelier du Son. L'émission a été préparée et coordonnée par Inès De Bruyne et réalisée par Véronique Lamandour. Au son ce soir, il y avait Benjamin Vignal.
A string of yellow carnival lights comes on with the dusk, circling the lake with a slowly dipping halo, and I hear.
En ligne, ça se passe sur franceculture.fr pour la réécoute, les commentaires et les podcasts.
And you dance into the shadow of a black poplar tree. And I watched you.
Dans un instant, vous retrouvez Aurélie Charron. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture. Et à vendredi prochain.
Merci Thomas, belle suite de nuit à vous. Voilà ce que vous entendrez la semaine prochaine dans les ateliers de la nuit. Mardi soir, dans l'atelier fiction, Sauver la peau de David Léon. Une écriture directe, rugueuse, pour dire et se libérer des carcans de la famille, de l'institution, du système éducatif. Mercredi soir, une autre façon de faire éclater le langage et les mots, Laurent Georgin reconstitue l'histoire d'une disparition, celle de Bruno, et la fait résonner dans la bouche de ceux qui l'ont connu, qui n'auraient pu imaginer qu'il parte si tôt. Bruno est réalisé par Anne Franchini. Jeudi soir, Klaus-Michael Gruber, évocation d'un poète, de Marc Blesinger et Gaël Médon, qui imagine un poème sonore pour entrer dans la pensée du metteur en scène qui parlait comme d'autres écrivent, avec des fulgurances et qui est disparu en 2008. Enfin vendredi, dans son atelier du son, Thomas Baumgartner reçoit Alvin Lucier, artiste américain, un de ceux qui ont lié très vite la composition au mouvement du corps et à la performance. Je vous dis à lundi pour l'atelier intérieur, nous serons en direct de 23h jusqu'à minuit et nous parlerons fantasmes avec le réalisateur Alain Guiraudy et le danseur chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro. N'oubliez pas de réécouter, de podcaster les ateliers de la nuit, ateliers fiction, ateliers création, ateliers du son, tout est sur le site internet de France Culture. Il sera bientôt minuit, c'est l'heure des nuits.